Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute du numéro de rentrée de Mélomanie, au retour de vacances qui auront été, je l'espère, belles et reposantes pour chacun d'entre vous. Le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale est de retour pour une nouvelle saison d'émission. Alors que de nombreux concerts sont déjà à l'affiche en cette fin d'été, septembre est traditionnellement le mois du festival Piano Jacobin et celui de la reprise pour l'Orchestre National du Capitole, mais d'autres événements ont lieu également à cette période de l'année. Pour les évoquer avec moi, j'ai le plaisir de retrouver mon fidèle complice Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Septembre est aussi le mois où sont dévoilées les programmations de plusieurs saisons musicales, notamment celle de Toulouse Guitare. Elle vient tout juste d'être présentée au public. Son directeur artistique me fait l'amitié d'être notre invité d'honneur aujourd'hui. Les amoureux de la guitare auront sans doute reconnu Thibaut Garcia, qu'on est toujours très heureux de recevoir dans cette émission. Nous allons évoquer avec lui la saison 21-22 de Toulouse Guitare tout à l'heure. En seconde partie de ce numéro, place d'abord à l'actualité musicale récente avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie, Retour arrière.
Bonjour Serge, bonjour Thibaut, content de faire cette émission de rentrée en votre compagnie. Nous allons la commencer en revenant sur le troisième rendez-vous de musique en dialogue au Carmélite. Je précise que le quatrième et dernier a lieu à 16h ce dimanche 12 septembre, mais le 29 août à la chapelle des Carmélites de Toulouse, c'est encore La Fontaine qui était à l'honneur, alors que nous fêtons cette année le 400e anniversaire de sa naissance, le fameux auteur des fables étant le fil rouge de la saison. Si La Fontaine m'était chantée, c'était le titre du programme auquel nous avons assisté tous les deux, Serge. Quels étaient les protagonistes de ce concert lecture? Ils étaient quatre, et quatre artistes de grand talent.
Ah oui, tout à fait. D'abord, bonjour à tous. Et donc, ce dimanche-là, effectivement, quatre artistes. Un récitant, qui n'était autre que William Mesguich, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans ce cadre-là, et deux chanteuses, qui étaient dont la soprano Estelle Andrea, la mezzo-soprano Magali Paliès, et un pianiste, Jérôme Boudin-Clauzel. Voilà. Alors, ces quatre artistes, eh bien, ont, d'une manière, mis en musique et en voix les fables de La Fontaine. Alors, tout a commencé par la marche pour la cérémonie des Turcs de Lully pour le bourgeois gentilhomme. Donc, c'était une espèce d'introduction, un peu faussement solennelle, d'ailleurs. Et puis ensuite, on a eu une succession de fables de La Fontaine déclamées par William Mesguich, quelquefois uniquement déclamées, quelquefois chantées, uniquement chantées, quelquefois les deux. Alors, c'était extrêmement varié, puisqu'il y a eu à la fois, comme on le disait au 19e siècle, des mélodrames, c'est-à-dire du récit sur la musique, mais du récit parlé sur la musique. Et puis, il y a eu carrément des mélodies, hein, donc de grands compositeurs, aussi bien Jacques Offenbach que Pauline Viardot, que un certain Louis Lacombe, que j'avoue que j'ai découvert.
J'avais découvert aussi à ce moment-là.
Voilà, Charles Lecoq, qui est beaucoup plus connu pour les opérettes, alors lui. Et puis, d'autres compositeurs, comme Camille Saint-Saëns, évidemment, célébrissime, lui. Donc, c'était un après-midi dominical tout à fait réjouissant, puisque les trois qui utilisaient leur voix, donc à côté du pianiste, les trois jouaient un peu sur les timbres. En particulier, William Mesguich a joué au caméléon, effectivement, puisque dans certaines fables comme Le Corbeau et le Renard, il imitait Le Corbeau et le Renard en changeant complètement de voix. C'était vraiment très réjouissant. Et puis, il y avait de très belles voix. Il faut quand même souligner la qualité des deux chanteuses.
Remarquables toutes les deux.
Ah, toutes les deux. Estelle Andrea, une belle voix claire de soprano. Magali Paliès, voix ronde et voix belle de mezzo-soprano. Des vraies voix, je veux dire, hein, pas confidentielles, qui se projettent. Hein. D'ailleurs, le concert n'était pas sonorisé.
Non.
Dans la chapelle.
Pas nécessaire du tout.
Ce qui est rare. Tout le monde entendait très bien. Donc, belle diction de tout ce monde. C'était vraiment un très beau moment que nous avons
passé. Et puis, il était bien pensé, moi, je trouve, ce programme. Très bien structuré.
Voilà. La succession des différentes fables abordées, c'était très bien, ça commence par les deux pigeons, puis alors il y en avait certaines que j'avoue je ne connaissais pas vraiment, ou que j'avais oublié, évidemment le corbeau et le renard, le chêne et le roseau, Les animaux malades de la peste, alors c'était amusant.
La cigale et la fourmi.
Oui, la cigale et la fourmi, bien sûr. Bon. Alors c'est amusant parce qu'on voyait parmi le public, il y avait pas mal d'enfants d'ailleurs,
oui.
Et on voyait dans le public les bouches qui récitaient les fables en même temps que Mesguiche ou les chanteuses les chantaient ou les disaient. Donc c'était vraiment un bon moment, un très beau moment.
Mais il y a 246 fables, je crois très précisément, oui. Hein, de La Fontaine, et on en a redécouvertes quelques-unes cette année grâce à cette saison justement.
Voilà, notamment la chauve-souris et les deux belettes.
Par exemple.
Je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui connaissent cette fable. Moi, j'avoue, j'ai découvert. Alors, c'est amusant parce qu'elle était couplée au loup et l'agneau, qui, lui, alors, est extrêmement connu. Et ces deux fables étaient illustrées musicalement par Charles Lecoq.
Voilà.
C'était à la fois dit et chanté. Donc, vraiment très...
Oui, William Mesguiche, qui est un très bon comédien,
excellent.
Qui a été formé en partie, il faut le rappeler quand même, à Toulouse, au Théâtre du Jour de Pierre Debauche, feu Pierre Debauche, qui est décédé il y a un ou deux ans maintenant, qui a œuvré à ce qui s'appelait à l'époque le Théâtre du Jour, qui est aujourd'hui le Théâtre du Grand Rond à Toulouse. Ça, c'était oui. Le milieu des années 90, Pierre Debauche à Toulouse. Et William Mesguiche a été un de ses élèves, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Jacques Gamblin, enfin des gens comme ça. Et après, il est parti à Agen, son Théâtre du Jour,
voilà, ouais.
Qui continue d'ailleurs. Sa succession a été assurée en terre agenaise. Alors, il a été bien sûr beaucoup question d'animaux lors de ce concert lecture, et lorsqu'il s'agit d'animaux et de musique, on pense tout de suite à un certain carnaval composé
oui.
Par un certain Saint-Saëns, dont nous commémorons d'ailleurs les 100 ans de la mort cette année, encore une commémoration. Voici l'aquarium du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, joué au piano, tel que nous avons pu l'entendre le 29 août à la chapelle des Carmélites. L'aquarium du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, une version piano comme celle jouée par Jérôme Boudin-Clauzel le 29 août à la chapelle des Carmélites. Et je rappelle donc que le quatrième et dernier concert lecture de la saison de musique en dialogue aux Carmélites est programmé ce dimanche 12 septembre à 16h. Il est intitulé L'Éden pour Horizon et va être donné par la violoncelliste Virginie Constant en compagnie de la grande comédienne Marie-Christine Barrault qui va officier en tant que récitante. C'est un concert sur le thème de la forêt avec des textes d'auteurs romantiques et des pièces de compositeurs baroques essentiellement. Belle affiche pour clôturer la saison, il faut vite réserver ses places. L'événement suivant sur lequel nous souhaitions revenir, c'est le concert du groupe vocal britannique Voce 8, mardi 7 septembre à Saint-Pierre-des-Cuisines, un concert organisé par les Arts Renaissants, prévu initialement la saison dernière et reporté en raison de la crise sanitaire. C'était une première à Toulouse pour ce jeune ensemble, enfin jeune ensemble qui existe quand même depuis une quinzaine d'années. Et vous y avez assisté aussi, Serge Chosy. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette découverte et de la prestation de cet octoire de chanteurs ?
Ah bah c'était une véritable découverte pour nous, hein, mais d'une qualité exceptionnelle, hein, vraiment, ce qui surprend. Alors dès leur première intervention, qui était une pièce qui s'appelle Regina Celi, de Thomas Lewis de Victoria, qu'ils chantent avec le sourire, ça c'est déjà très réjouissant pour les spectateurs. Et ce qui frappe, c'est la précision incroyable. Aucun des chanteurs ne dirige. C'est la perfection sur le plan aussi bien des démarrages que des arrêts, ce qui quelquefois est délicat dans les ensembles
oui,
vocaux.
Oui,
hein.
Oui,
les départs. Et donc, ils font ça à la perfection, la clarté des voix, à la fois chaque voix s'entend individuellement et le mélange fonctionne à la perfection. Et donc, il y a un équilibre complet entre les 8 voix. Donc, vraiment un grand moment. Je me suis permis de mettre un coup de cœur dans l'article que j'ai écrit dans Classic Toulouse parce que c'était vraiment excellent. Et ils ont donné un programme qu'ils ont intitulé « The Art of Expression, Music of the Renaissance », comme disent les Britanniques. Ils l'ont présenté d'ailleurs. Alors, in English, of course, il fallait s'adapter. Et donc, c'était un programme en particulier dans la première partie où ils étaient chantés tous les 8. On verra qu'en deuxième partie, il y a eu d'autres effectifs, d'autres choix. La première partie, il y avait du Josquin des Prés, du Jean Mouton, que j'avoue, je ne connaissais pas
aussi,
beaucoup.
Là aussi, j'ai vu ça. C'est bien français, c'est pas Mouton. Hein,
c'est, ah non, c'est pas Jean Mouton.
Jean Mouton.
Puis de nouveau Thomas Lewis et Victoria. Puis alors, une chose incroyable, un compositeur d'aujourd'hui, britannique, qui s'appelle Jonathan Dove, qui se trouve avoir écrit un motet sur le même texte que Thomas Lewis et Victoria. Un motet qui s'appelle Vadam et Circuibro. Et alors, ils ont tenu à faire partager par les spectateurs les deux styles de musique sur le même texte. Et finalement, ça n'est pas très différent. Donc, c'était très bien. Et ils ont présenté les pièces par couple, en quelque sorte, deux par deux. Il y avait du Josquin des Prés et du Jean Mouton, mais qui évoquait un peu la délicatesse de la polyphonie de cette époque de Renaissance et la complexité croissante de cette polyphonie. Ensuite, donc, les deux versions musicales du même motet dont je viens de parler, donc Victoria et Dove. Et ensuite, le grand développement presque orchestral des chants de l'époque avec Orlando Di Lasso et Palestrina, deux grands compositeurs, avec l'apparition des chants en écho. Donc c'était à la fois très pédagogique et très musical ce qu'ils ont fait. Ça, c'était pour la première partie. Et dans la deuxième partie, alors c'était différent. Là, ils se sont limités à 5 pour un extrait du 6e livre des Madrigaux de Monteverdi qui s'appelle, alors c'est un thème éminemment dramatique, « Lagrima d'amante al sepolcro dell'amata ». Donc, les larmes de l'amant à la sépulture de l'aimé. Alors, ils ont extrait 6 madrigaux de ce livre. Alors là, c'était le drame. Hein. C'est incroyable. Un changement de style musical et vocal, ils l'ont précisé d'ailleurs dans leur présentation, qui évoque un peu la naissance de l'opéra. Vraiment, on sent que là, Monteverdi est tout près d'Orfeo et que l'opéra est en train de naître. Donc. Puis ensuite, ils ont balayé un peu la verve populaire avec une œuvre de Thomas Wilkes, britannique donc, et puis d'Orlando Di Lasso, qui était en français alors, qui s'appelle « Le Dessus le marché d'Arras ».
Oui.
Donc, voilà.
Orlando de Lassus, c'est Roland de Lassus.
Hein. Roland de Lassus.
Chez nous, on peut l'appeler comme
ça. Ah, mais il a des tas de noms.
Parce qu'il était flamand, en fait.
Oui, il était flamand.
C'est
exactement.
Un peu compliqué. On resitue ça dans notre histoire présente, mais à l'époque, l'Europe, ça ressemblait pas à ce que c'est aujourd'hui.
Ah non, pas du tout. Et puis, ils ont terminé par, là aussi, un doublé. William Byrd, Orlando Gibbons, donc typiquement britannique, avec d'abord la grande nostalgie de William Byrd, et puis une espèce de joie qui éclate dans la pièce d'Orlando Gibbons, qui d'ailleurs s'appelle Oh, clap your hands. Ça allait bien pour terminer un concert, hein, d'inciter.
C'était presque du gospel.
Oui,
les gens
tapaient
dans les mains.
Presque, oui. Donc, vraiment, un moment magnifique avec une qualité vocale et musicale exceptionnelle. Et donc, ils ont été tellement acclamés qu'ils sont venus chanter un bis. Et le bis, c'est du jazz. Ils ont chanté du Nat King Cole, carrément. Donc, avec
C'était quel morceau de Nat King Cole?
Ah, je ne sais pas. Là, ils n'ont pas précisé.
Ah, ils n'ont pas précisé, d'accord.
J'avoue que je n'ai pas reconnu vraiment ma culture
jazzistique.
Non, King Coleienne n'est pas à la hauteur. Je le reconnais. Mais alors, c'était fabuleux parce qu'on avait l'impression d'entendre un autre ensemble.
Oui, mais bon, je suis très étonné parce que les Anglais, les voix anglaises, c'est quand même extraordinaire ce qu'ils font.
Ah non, ça c'était vraiment un grand moment. Hein. Et c'est ouais. Ça allait très bien pour les arts renaissants qui reprenaient un peu de la vie, puisque
l'arrêt était long, hein. L'interruption était longue, était douloureux la saison dernière. Ah, oui, mais oui. Là, ça redémarre vraiment sur les chapeaux de roue.
Ah, oui.
Eh bien, pour vous faire entendre les voix du bel ensemble Voce 8, voici leur interprétation du Regina Celli L'Étaré de Thomas Louis de Victoria, une des pièces de leur programme du 7 septembre. Regina Celli, L'Étaré de Thomas Louis de Victoria, chanté par l'ensemble Voce 8, une des pièces au programme de leur concert du 7 septembre à Saint-Pierre-des-Cuzy dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Le prochain concert des Arts Renaissants est donné au même endroit, mardi 21 septembre à 20h. C'est l'ensemble Jupiter et la mezzo-soprano Léa Descendré qui vont s'y produire avec un programme Vivaldi, Couperin, Porpora. Très beau programme et très beau jeune ensemble. Ça sera aussi la première à Toulouse avec Léa Descendré. C'est vraiment un concert à ne pas rater. Dernier événement au menu de notre retour arrière, le concert d'ouverture de Piano Jacobin 2021, mercredi 8 septembre. C'est une habituée du festival qui était en récital ce soir-là. La pianiste américaine Simone Dinnerstein, souvent invitée au cloître des Jacobins, et comme à son habitude, Serge, elle a proposé un programme très éclectique allant du baroque à la musique contemporaine en passant par le piano romantique.
Ah oui, ça c'est incroyable. Alors d'abord, il faut préciser qu'elle s'est adressée au public, en anglais évidemment, là aussi, pour dire sa joie de reprendre des activités devant le public. Elle a avoué que depuis le début de la pandémie, ce n'était que son deuxième récital, ce qui est incroyable pour un artiste, hein, pour un musicien. Donc, elle a présenté un programme, là aussi, tout à fait incroyable. À la lecture, a priori, des œuvres jouées, ça part de François Couperin, Robert Schumann, Philippe Glass, de nouveau Couperin, et puis Eric Satie, et puis de nouveau Schumann. On se dit, mais...
Oui, j'ai dit éclectique, mais on pourrait presque dire hétéroclite.
Complètement hétéroclite, a priori.
A priori.
Mais elle a une telle intelligence de la formation, de la fabrication d'un itinéraire personnel, que finalement, à la fin, c'est d'une logique incroyable. Alors, il faut préciser que, par exemple, dans la première partie, elle a commencé par les barricades mystérieuses de Couperin, et pour s'achever... également de Couperin, par Tok Tok, une œuvre bien connue, comme un peu des guillemets pour encadrer Schumann et Phil Glass. Alors, elle jouait toutes ses œuvres en les enchaînant directement, sans le moindre silence entre les pièces, ce qui donne une unité, une continuité, une espèce de démarche logique. Évidemment, elle a bien choisi les enchaînements de tonalités.
Voilà, c'est ça, je pense qu'il faut jouer sur les tonalités. Il faut qu'il y ait une cohérence dans les tonalités.
Évidemment, la cohérence était complète. Ce qui fait que le passage, par exemple, de la gravité des barricades mystérieuses de Couperin à la luminosité de l'arabesque de Schumann, l'arabesque opus 18, mais c'était logique, ça paraissait tout à fait normal. Et elle a fait, alors ça c'était quand même incroyable, elle a fait dans cette première partie, elle a fait de la pièce de Phil Glass, Mad Rush, qui veut dire précipitation folle, le centre de gravité de cette partie. En fait, tout tournait autour de la pièce de Phil Glass, qu'on connaît, ce compositeur américain, dit minimaliste répétitif, bref. Et elle a joué ça avec une passion incroyable. Et on avait l'impression d'assister à une seule et même œuvre. qui était une œuvre de Simone Dinnerstein. Donc, c'est vraiment très particulier. Hein. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, alors c'était différent, il n'y avait que deux œuvres. Ça s'ouvrait par la Gnossienne numéro 3 de Satie, en quelque sorte, en introduction à la pièce importante de cette deuxième partie qui était les Crasileriana de Schumann. Alors on connaît cette pièce complètement folle, hallucinante, d'une redoutable difficulté technique qui dure au-delà d'une demi-heure, hein. Une œuvre monumentale qu'il avait composée donc en évoquant le personnage de Kreisler de E.T.A. Hoffmann, hein, et qu'il avait dédié à sa chérie Clara Wieck encore, donc qu'il voulait à tout prix épouser et que le père de Clara
répugnait un peu à lui donner.
Ah oui, à lui
pour
donner,
dire les choses clairement.
Pensant que Robert Schumann n'était pas très stable, ce en quoi il n'avait pas tort, puisqu'on sait comment tout cela s'est terminé. Donc, elle a joué ses Kreisleriana avec un emportement, une imagination, une force, hein, à la fois révolte, tendresse. On connaît, ça alterne sans arrêt. Ça, c'est du pur Schumann, évidemment. Avec en plus le caractère obsessionnel des thèmes qui reviennent, comme des cauchemars, comme des rêves.
Qui était dû à la structure psychologique de Schumann lui-même. Tout Schumann est dans sa musique.
Et oui, exactement. Donc, c'était vraiment, là encore, magnifique. Alors, désolé de vous dire, mais je n'ai assisté qu'à de magnifiques concerts.
On vous plaint, hein.
Oui.
On vous plaint sincèrement.
Vous pouvez, hein. Oui. Alors, un petit détail anecdotique, elle joue pieds nus. Hein, donc,
il y avait la chanteuse aux pieds nus dans les années 60.
Oui, bah là, c'est la pianiste
aux pieds nus.
Et alors, comme elle a eu un énorme succès là aussi, elle a joué un bis, mais elle ne pouvait pas se contenter de jouer un bis comme les autres pianistes jouent des bis. Non, elle a repris la première pièce de la soirée, Les Barricades mystérieuses de François Couperin, pour boucler la boucle. Donc c'était d'une logique.
Un petit hommage à la France aussi en passant.
Oui. Mais je crois que c'était plus une volonté de boucler la boucle. Et elle a terminé par ça. Donc on est parti un peu dans un autre monde.
Un peu sur un nuage. Je comprends
magnifique.
Bien ce que vous nous dites.
Très très beau. Donc, c'est une très belle ouverture pour le Festival Piano Jaco.
Oui. Je pense qu'il fallait que ce soit une belle ouverture. Nous allons retrouver tout de suite Simone Dinnerstein dans une interprétation d'un grand classique du piano romantique, la très belle arabesque de Robert Schumann. La jolie arabesque de Robert Schumann, jouée par la pianiste américaine Simone Dinnerstein, avec laquelle nous concluons cette première partie d'émission. La 42e édition de Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 26 septembre, avec des concerts quasi quotidiens. Je vous invite donc à consulter la programmation sur le site du festival. Petite pause et nous nous retrouvons dans quelques secondes en compagnie de Serge Chosy et Thibaut Garcia pour évoquer la saison 21-22 de Toulouse Guitare. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie d'émission avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31, le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, le guitariste Thibaut Garcia, directeur artistique de Toulouse Guitare. Cette saison que vous avez créée, que vous organisez avec vos parents Jules et Gaël, que je salue au passage. Les deux dernières saisons ont été évidemment très perturbées par la crise sanitaire, avec plusieurs annulations et des reports de concerts comme partout. Pour l'instant, on va toucher du bois, on peut espérer que ce scénario ne se reproduise pas pour la saison à venir, une saison où l'on retrouve justement quelques concerts prévus en 2020 et 2021, annulés et donc reportés en 2021-2022. On va regarder ça en détail avec vous Thibaut Garcia. Cela étant, la formule et l'esprit de Toulouse Guitare ne changent pas. Deux grands guitaristes internationaux, de jeunes talents à découvrir, de la variété dans la programmation, pour un public nombreux et fidèle, parce que c'est une formule qui a pris tout de suite, ça a marché tout de suite à Toulouse Guitare.
Bah absolument, mais vous avez tout dit Eric, qu'est-ce que je peux rajouter de plus?
Déjà, vous avez beaucoup de choses à rajouter, vous n'êtes pas du genre à être muet.
Bonjour Serge et bonjour à tous les auditeurs. Oui, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour présenter la nouvelle saison de Toulouse Guitare. En effet, elle va être très variée, avec évidemment des incontournables de la guitare classique, et puis des découvertes avec des mélanges... La guitare qui se mélange à d'autres arts, comme la danse, donc on va le voir. Le premier concert de la saison, ce sera le dimanche 10 octobre à la Chapelle des Carmélites avec, on parlait des incontournables, Roberto Ossel, guitariste argentin. Alors, pour vous dire, d'habitude, les artistes qu'on invite, je les ai souvent vus en concert. Roberto Ossel, je ne l'ai jamais vu, mais c'est un rêve. C'est vraiment un rêve depuis toujours, c'est un nom que j'ai toujours entendu. Et j'avais envie de le voir une fois dans ma vie, quand même, en concert, parce que je pense que c'est...
Alors pourquoi
des souvenirs mémorables pour plein de gens.
Vous l'avez entendu au disque, je suppose. Vous connaissez au disque,
évidemment.
Vous l'entendez peut-être à la maison, chez vous.
Oui, toujours.
Et alors c'est un guitariste qui a quel âge, 70 ans à peu près, mais qui a la particularité. Bon, il est argentin, mais il vit en France.
Exactement, je crois qu'il vit à côté de Rennes. Et il a été professeur à Cologne, il a été professeur à Rennes, mais maintenant je crois qu'il a plus de poste. Il fait que des concerts, toujours, évidemment. Et là, il va nous proposer un programme autour de Piazzolla. En tout cas, Piazzolla, ce sera le fil conducteur, puisqu'on fête disons, le centenaire de la naissance de Piazzolla.
Il aura eu 100 ans cette année, Astor Piazzolla.
Cette année, c'est l'année Piazzolla, l'année Brassens. Bon, on a choisi, ce sera Piazzolla pour Roberto Ossel.
C'est toujours de la guitare.
C'est toujours de la guitare. Et donc voilà, un répertoire autour de Piazzolla, mais il y aura aussi d'autres compositeurs, Antonio Lauro, Bennett, Obrovska, donc un répertoire très 20e siècle, avec des pièces que vous connaissez déjà, de Piazzolla, et des pièces à découvrir.
Voilà, donc ouverture de saison, dimanche 10 octobre à 16h, la Chapelle des Carmélites, toujours cette belle Chapelle des Carmélites. Le concert avec Roberto Ossel était prévu au printemps 2020, si ma mémoire est bonne. Cette fois-ci, ce sera au début de l'automne. Musicien que donc vous êtes très fier de faire venir à Toulouse pour la première fois. A priori, il n'est jamais venu.
Je crois qu'il n'est jamais venu.
Moi, ça ne me dit rien. Je sais que tous les amoureux du tango attendent sa venue avec grande impatience. Donc, vous allez sans doute avoir beaucoup de danseurs de tango qui vont venir.
Génial.
Écouter. Alors, je ne sais pas, ils pourront peut-être pas danser, mais enfin... Est-ce qu'il y aura un jeune guitariste avant le concert de Ossel, comme c'était jusqu'alors la tradition à Toulouse Guitare?
Évidemment, c'est toujours la tradition. On ne perd pas cette belle tradition de faire jouer un jeune guitariste ou une jeune guitariste en première partie.
Formidable, parce que... cette tradition. Vraiment, ouais. Thibaut, c'est magnifique.
Et on a vu souvent
des
musiciens de grand talent.
Mais ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est aussi dans l'ADN de Toulouse Guitare, parce que bon, moi, ça ne fait pas si longtemps que j'ai terminé mes études, finalement. Et je veux dire, si on m'avait proposé il y a 10 ans de faire la première partie d'un artiste comme Roberto Ossel ou Zoran Dukic ou autre, c'est une façon de dire, voilà, le métier, c'est ça. C'est-à-dire là, on vous offre une scène devant un vrai public, c'est officiel. Pour la plupart, c'est leur premier concert.
Oui,
c'est leur premier concert.
J'ai cru comprendre.
Et ils se débrouillent. Je veux dire, il sait plus ce qu'ils se débrouillent, c'est qu'ils nous proposent des vrais concerts. Et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que les auditions dans les conservatoires, c'est génial et il faut continuer. Mais quand on dit à un jeune étudiant, là, tu fais un concert, eh bien, il joue comme un concert.
Oui. Ça, c'est vrai. On a eu le cas pendant les saisons précédentes. Mmh. Hein. On a vraiment découvert de très beaux musiciens, très bons musiciens.
Mais d'ailleurs, on en a chaque fois parlé lorsqu'on est revenu sur les concerts. On parlait non seulement du grand musicien qui s'était produit pour le concert qui était à l'affiche, mais on parlait aussi de ces jeunes talents, parmi lesquels il y a souvent des jeunes femmes d'ailleurs, qui s'étaient produits en première partie.
Donc bravo pour cette initiative et de la continuer. Donc.
Alors en parlant de transmission, il y aura une masterclass de Roberto Ossel au Conservatoire de Toulouse, 2 jours avant le concert.
Exactement, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est de faire la liaison entre les jeunes étudiants et les grands artistes. Et que chacun puisse apprendre. Alors après, les masterclass, généralement, elles sont ouvertes. Je ne sais pas comment ce sera cette année, parce que c'est toujours intéressant d'aller écouter un artiste international, parler de son art et échanger avec les jeunes.
Voilà, donc ce sera le 8 octobre, masterclass de Roberto Ossel au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Voici une pièce extraite du CD Tangos et Milongas, c'est le dernier en date de Roberto Ossel. Elle a pour titre Tango Barocco numéro 3. Tango Barocco numéro 3, extrait du CD Tangos y Milongas de Roberto Ossel. Le grand guitariste argentin est à l'affiche du concert d'ouverture de la saison 21-22 de Toulouse Guitare, dimanche 10 octobre à 16h à la Chapelle des Carmélites. Et en première partie, le jeune musicien qui va se produire avant Roberto Ossel, c'est...
Ce sera Virgil Barthes, que vous avez déjà entendu l'an dernier pour le concert du Quatuor Eclipse. Et il se trouve que Virgil, on peut le féliciter et rentrer au CNSM de Paris, au Conservatoire supérieur. Donc il va commencer ses études là-bas. Un Toulousain qui part à Paris.
Et Serge Chauzet, qui l'avait écouté avant le Quatuor Eclipse, m'avait dit c'est un très bon, on en reparlera. Mais il ne s'était pas trompé.
Ben voilà, donc j'en suis ravi.
Voilà, Virgil Barthes, en première partie de Roberto Ossel, dimanche 10 octobre à 16h à la Chapelle des Carmélites. Concert suivant, vendredi 3 décembre à 20h à la salle du Sénéchal, avec le guitariste croate Zoran Dukic. Encore un qui devait avoir lieu un an plus tôt, ce concert, et qu'il avait fallu reporter. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce musicien qui devrait lui aussi venir pour la première fois à Toulouse à cette occasion?
Évidemment, Zoran Dukic, donc guitariste croate, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur plusieurs festivals. Alors lui, alors on est dans des tempéraments très différents entre Roberto Ossel et Zoran Dukic. Zoran Dukic, comment dire en quelques mots? C'est un guitariste qui explore absolument toutes les couleurs de la guitare, c'est-à-dire qu'à la fois il est capable de faire exploser la guitare sur des fortissimo énormes, presque d'orchestre, et il est capable de vous amener dans des pianissimo mais sublimes. Ben pour vous dire, j'ai pleuré plusieurs fois lors des concerts de Zoran Dukic. Et il va nous présenter alors un programme tiré de son dernier album, Bach Piazzolla. Alors ça peut être une association étrange, mais ça fonctionne.
On va après Simone Lindenstein, on est prêt à tout.
Absolument, il n'y a pas de problème.
C'est ça, avec de la musique des Balkans, Dusan Bogdanovic, la musique anglaise de Steven Goss. Et je pense que là, on va passer encore un grand moment de musique.
Donc ça sera la salle du Sénéchal, salle que vous avez déjà utilisée à plusieurs reprises à Toulouse Guitare, et qui est très agréable cette salle, je trouve. Moi.
Mais qui est très agréable, elle est intime, elle fait un peu moins de 200 places, il y a de la brique tout autour. Et c'est une salle qu'on aime utiliser en effet parce qu'on s'y sent bien, l'acoustique est bonne. Elle est bien aussi pour des concerts à chaque fois, soit amplifiés, soit des concerts un peu plus originaux dont on va parler, parce que Toulouse Guitare c'est ça aussi.
Il y avait eu un ciné-concert.
Chaque année il y a un concert un peu concept ou un peu original. Et cette année, bon, ce sera de la danse, on va le voir.
Oui, on ne va pas anticiper. Voilà. On va d'abord écouter Zoran Dukic dans ses œuvres. Il interprète ici le célèbre, le très célèbre Adios Nonino d'Astor Piazzolla. Adios Nonino, pièce composée par Astor Piazzolla en hommage à son père après la mort de celui-ci, interprétée par Zoran Dukic, le guitariste croate va donc se produire en récital vendredi 3 décembre à 20h, salle du Sénéchal. Et après cela, c'est un trio que vous avez programmé jeudi 14 janvier 2022, on sera en 2022 à 20h, le trio Cavalcade formé par Jérémy Jouve, Mathias Duplessis et Édouard Prabou. Vous allez nous le présenter dans quelques instants, mais avant je voulais que vous disiez un mot sur le lieu où ils vont donner ce concert, parce qu'il s'agit de l'auditorium Marthe Conda, situé à l'université Paul Sabatier de Toulouse, quartier Rangueil, et sauf erreur de ma part, c'est une première pour Toulouse Guitare, cet endroit.
C'est une première, on va explorer de nouveaux lieux cette année. Il y aura l'auditorium Marthe Conda à l'université Paul Sabatier. En effet, nous on a entendu parler de cet auditorium cette année. Je connaissais pas du tout avant, ni les autres membres de l'association. Et quand on est allé le visiter, on a trouvé que c'était un lieu absolument super. Et nous on est intéressés évidemment de découvrir de nouveaux lieux à chaque fois. Et l'auditorium sera parfait pour ce concert-là, puisque ça va être un concert avec des musiques amplifiées. Il y aura un trio de... Alors, c'est un trio avec deux guitares et tabla indien.
Ce sont des percussions indiennes, il faut préciser.
Voilà, tabla, percussions indiennes.
Percussions indiennes.
Et déjà, les deux guitares seront différentes, puisqu'on accueille un artiste que vous connaissez déjà, Jérémy Jouve.
On l'a vu il y a deux ans, je crois. Ça doit être il y a deux ans. Temple du Salin. Magnifique concert de Jérémy Jouve.
Un concert super. Et là, il sort un album autour de la musique de Mathias Duplessis. Donc, on invite en trio avec Mathias Duplessis à la guitare. Alors là, c'est une guitare moins classique. C'est une guitare plus flamenca, plus musique du monde. Donc, on va avoir trois couleurs complètement différentes. Et c'est un trio, le trio Cavalcade, qui joue ensemble depuis quelques années maintenant. Et ils vont nous jouer essentiellement de la musique de Mathias Duplessis. Alors, il y aura des solos, il y aura des duos, il y aura des trios. Et ça va être un concert extrêmement dynamique.
Mathias Duplessis, dont Jérémy Jouve avait déjà joué quelques pièces lors de son concert au Temple du Salin il y a deux ans.
Absolument.
Magnifique, je m'en rappelle encore. Jérémy Jouve, qui est un excellent guitariste que vous connaissez très bien, hein, Thibaut Garcia, il ne vient pas dans votre saison par hasard. Et Mathias Duplessis, ça c'est vraiment un personnage, même, parce que j'ai l'impression que c'est un compositeur, alors lui aussi... très éclectique, mais j'allais dire, pour rester dans les rimes en hit, insolite.
Alors c'est un artiste de comment dire, avec énormément de facettes. Il a fait, donc il compose la musique de films, de pubs, la musique classique, musique du monde. Il fait du doublage lui-même, du doublage de voix. Il en a fait officiellement, vous voyez, c'est, il touche à tout, il touche à tous les instruments. Vous lui donnez une table, il vous compose un morceau pour table, c'est hallucinant. Donc c'est un musicien au sens très large du terme, et c'est quelqu'un de très inspiré, qui fonctionne beaucoup à l'émotion. Moi j'ai eu la chance de participer au dernier album de Jérémy Jouve, parce qu'on a monté un quatuor un peu éphémère comme ça, pour jouer le quatuor de Mathias Duplessis. Et donc en travaillant avec lui, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très sensible, de très touchant, et ça se ressent dans sa musique.
Quatuor de guitare.
Quatuor de guitare. Ouais.
Alors là, dans le trio, il y a Édouard Prabhu, percussionniste franco-indien, je crois. Il est indien d'origine, parce que les gens se demandaient, mais Prabhu...
Voilà, Édouard français, Prabhu indien. On peut le voir comme ça. Et alors Édouard, moi je l'ai jamais rencontré encore. Je l'ai seulement entendu sur des vidéos, mais une fois en concert, c'était à Valence. Et leur trio marche super bien. Édouard, il extrêmement talentueux. C'est hallucinant. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Et ce que j'aime, c'est que la couleur de ce concert sera encore différente des autres, parce qu'on va nager entre la musique classique et la musique du monde.
Voici un aperçu de la musique du trio Cavalcade avec le morceau qui va suivre, composé par Mathias Duplessis, Bayao de Paris. Bayao de Paris de Mathias Duplessis, interprété par le trio Cavalcade, que vous pourrez découvrir en concert à l'auditorium Marthe Condat de l'université Paul Sabatier de Toulouse-Langueuil, et ce sera le jeudi 14 janvier 2022 à 20h. Vendredi 11 mars, toujours à 20h, mais à la salle du Sénéchal de nouveau, le quatrième rendez-vous de la saison est un peu particulier parce qu'il va réunir un guitariste, jusque-là rien d'étonnant, et un danseur. Le danseur, c'est Joachim Maudet, et le guitariste, c'est Antoine Morinière. Alors là, c'est un musicien que vous connaissez très très bien, Thibaut. Vous jouez avec lui, et vous faites même des stages avec lui.
Oui, c'est peut-être le musicien que je connais le mieux, puisque ça fait 12 ans qu'on joue en duo de guitare. Et là, je suis ravi de présenter leur concert, puisqu'ils vont nous proposer un concert qui s'appelle Nocturne. Alors c'est plus qu'un concert, c'est un spectacle. C'est-à-dire que là, il y a un vrai travail de lumière, il y a un vrai travail chorégraphique, entre la guitare et la danse d'ailleurs, parce que la guitare ne sera pas immobile. On peut voir que dans la présentation du dossier, il y a marqué guitare, voix, tambour, Antoine Morinière. Donc il joue pas que de la guitare. Et c'est ça qui est génial, il y a une prise d'espace sublime. Alors ils ont quand même bien choisi leur pièce, puisqu'on est sur le thème du nocturne. Il y aura le nocturnal de Benjamin Britten, il y aura la chaconne de Bach quand même, à ne pas négliger, et puis une création de Raphaël Sévère composée exprès pour ce spectacle. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu le spectacle. Je suis un des seuls à l'avoir vu, parce qu'à cause de la pandémie, ils l'ont pas encore trop fait. Et je me suis régalé. Et surtout, ils nous amènent dans un univers, l'univers de la nuit. Et du début à la fin, on est vraiment avec eux jusqu'à ce que les lumières se rallument.
Joachim Maudet, on peut dire un mot sur ce danseur? C'est un danseur moderne plutôt?
Danseur contemporain, absolument. Donc il est dans la création contemporaine. Donc là, on est loin du classique. On est vraiment dans la création du mouvement, dans l'utilisation de l'espace, parfois de manière très minimaliste. Je ne vais pas tout vous dévoiler du concert, évidemment, mais ils peuvent utiliser un siège pour deux. des choses comme ça où ils vont vraiment être en interaction tous les deux.
Bon, alors évidemment, ça donne envie de voir à quoi ça ressemble in situ. Et Antoine Morinière, vous sortez, de, je crois, tout juste d'un stage de guitare que vous avez encadré tous les deux pendant l'été.
Bah, le stage annuel qu'on organise avec Antoine Morinière dans les Pyrénées, dans la vallée du Louron à Germes.
Côté de Arreau. Je connais très bien par là. Et très, très bien, c'est très joli d'ailleurs.
Et oui, et alors avec Antoine Morinière, il y aura d'ailleurs des surprises qui vont arriver bientôt puisqu'on est en train de vous préparer les variations Goldberg à deux guitares. Petit exclu.
Les variations Goldberg à deux guitares. Alors, ça sera une transcription faite par qui là?
Par nous, faite maison. Transcription faite maison qu'on a terminée cet été.
C'est une nouvelle transcription parce que ça existe déjà des versions des variations Goldberg pour deux guitares, mais là, ça sera encore, ça sera du Garcia Morinière.
Celle-là n'existe pas.
C'est autre chose.
Ah, bravo, hein, a priori, voilà. oui, on est intéressé.
Bien, alors, petit extrait de spectacle, non, parce qu'à la radio, on ne peut pas vous montrer la danse et la guitare. Par contre, on peut écouter Antoine Morinière jouer le Nocturnal, cet air de Benjamin Britten, inspiré de John Dowland. Nocturnal, pièce de Benjamin Britten inspirée d'une autre pièce de John Dowland interprétée par Antoine Morinière et donc sur laquelle entre autres dansera Joachim Modet lors du 4e concert de la saison de Toulouse Guitare vendredi 11 mars à partir de 20h à la salle du Sénéchal et puis donc 5e et dernier rendez-vous vendredi 20 mai à 20h à l'église Saint-Jérôme cette fois-ci avec la guitariste de la saison et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Gaëlle Solal. Alors pour les gens qui ne la connaîtraient pas, vous allez nous la présenter Thibaut parce que c'est un vrai nom de la guitare actuelle et c'est aussi une artiste très engagée dans la promotion de son instrument.
Ah oui, absolument. Mais Gaëlle Solal, c'est quelqu'un de très, très actif. Et vous le verrez sur scène, c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte. Moi, j'aime beaucoup. Elle a presque une personnalité théâtrale. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle passe sans encombre du solo solennel en robe longue au duo clownesque Crazy Nails, parce que c'est un spectacle qu'elle a appelé Crazy Nails avec son compère Boris Gacker. Elle passe de Bach aux Beatles, de la musique contemporaine à la musique baroque. Donc, c'est un personnage, on va dire, haut en couleur, Gaëlle, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et en effet, par exemple, elle est très active, notamment pour la place des femmes dans la guitare.
Absolument.
Et chose qui est très importante. D'ailleurs, nous, à Toulouse Guitare, on ne cache pas ça. C'est-à-dire que des femmes dans le milieu de la guitare, il y en a plein qui jouent extrêmement bien. C'est juste que, oui, on a tendance, de manière générale, à plus voir d'hommes que de femmes. Et à chaque fois qu'on regarde nos programmations, elles sont présentes, que ce soit dans les étudiantes ou dans les artistes internationales. Et Gaëlle en fait partie. Là, c'est la première fois qu'on fera un concert Toulouse Guitare à l'église Saint-Jérôme.
Ah oui.
Aussi, c'est un lieu que j'adore personnellement.
Vous avez joué,
j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'y jouer en duo avec flûte.
Et avec Boris Grolier.
Exactement, et c'est un super souvenir pour moi. Donc on a eu la chance de pouvoir organiser un concert à l'église Saint-Jérôme. Donc c'est Gaëlle qui viendra nous présenter un programme autour du Brésil, parce qu'elle est amoureuse du Brésil et de la musique brésilienne.
Oh bah, Serge Sozzi, ça déjà, ça vous plaît d'avance.
Ah oui.
Serge est emballé, je vois.
Déjà, oui.
Et donc elle a sorti un album autour de Villa-Lobos.
Tout.
Et, Touhou. Exactement. Je crois que c'était le surnom de Villa-Lobos.
Je crois aussi. Alors ça, c'est à vérifier. Hein.
Voilà, on va pas dire de bêtises. Et du coup, elle va nous jouer du Villa-Lobos, du Tom Jobim, du Rolandiens, du Garoto, du Pixinguinha. Enfin voilà, on va voyager au Brésil.
Tout ce que le Brésil a produit de meilleur, je serais d'accord avec moi.
Évidemment, évidemment.
Moi, je vais le dire en français, Tom Jobim. Parce que d'ailleurs, Jobim, c'était un nom d'origine française. Il parlait très bien français, Tom Jobim. Très bien français, tiens, absolument. Oui, il parlait très bien français. Et donc, Villa-Lobos, bah, voilà, on aura les deux, je pense, les deux plus grands musiciens que le Brésil nous ait donné. Cet album est paru en 2020, il est tout récent. Elle a sans doute eu très peu l'occasion de le jouer en public. Bon, elle aura sans doute d'ici le mois de mai, elle pourra le jouer ailleurs. Enfin, j'espère pour elle, en tout cas. Voilà, la Marseillaise Gael Solal, elle a du tempérament, elle est Marseillaise. Voici un des morceaux extraits du CD Touhou, le deuxième mouvement de la suite populaire brésilienne d'Hector Villa-Lobos, Scottish, joué par Gael Solal. Le deuxième mouvement de la suite populaire brésilienne d'Hector Villa-Lobos, Scottish, joué par Gael Solal, un extrait du CD Touhou, paru en 2020. La guitariste française donne le dernier concert de la saison de Toulouse Guitare, vendredi 20 mai à 20h, à la très belle église Saint-Jérôme. Thibaut Garcia, rapidement, votre actualité. Il y a un CD qui sort au mois d'octobre avec un certain Philippe Jaroussky, qu'on ne connaît pas bien.
Alors, Philippe Jaroussky, je vous le présente en quelques mots. Non, je rigole. Non, évidemment, alors, on sort un album avec Philippe Jaroussky. Ça, c'est un rêve. Franchement, c'est plus qu'un rêve, c'est quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire qu'on m'aurait dit il y a quelques années
vas faire
un disque avec Philippe Jaroussky, j'aurais rigolé, c'était pas pensable pour moi. Et on s'est rencontrés, on s'est adorés musicalement, humainement, et on sort ce disque en duo le 8 octobre.
Et il y aura dessus... Il y a de la musique brésilienne.
Oui, mais alors il y aura. Le disque s'appelle À sa guitare, donné par une pièce de Poulenc qui s'appelle À sa guitare. On joue du Poulenc, du Forêt. On va faire de la musique renaissance aussi avec Dowland, Purcell. Il y aura de l'opéra italien et il y aura quelques chansons populaires.
Une idée de cadeau de Noël si vous cherchez, ça c'est très bien, par exemple. Et puis, il y a une tournée européenne après avec.
Il y aura une tournée européenne, il y aura une date à Toulouse. À la Hallograin. Donc, il y aura une tournée européenne, on a une vingtaine de dates en Angleterre, en France, en Espagne.
À Hallograin, dans le cadre de la saison des grands interprètes. J'ai plus la date tête. À vérifier. Avant que l'on termine, Thibaut Garcia, vous vouliez préciser quelque chose concernant le pass Toulouse Guitare.
Absolument, oui. Non pas le pass sanitaire, mais le pass de la saison Toulouse Guitare qui est disponible encore pour les 5 concerts à 65€.
C'est donné.
Donc,
il faut le prendre.
Voilà, et on espère vous voir très bientôt à Toulouse Guitare.
Ben en tout cas, moi j'y serai, je vais pas manquer ça, parce que j'adore cette saison et j'adore la guitare. Ce numéro de Mélomanie est terminé. Merci tout d'abord à Serge Chauzy de m'avoir aidé à l'animer avec son brio habituel. Et tous mes remerciements aussi à Thibaut Garcia d'en avoir été l'invité d'honneur et de nous avoir présenté cette nouvelle belle saison de Toulouse Guitare. Vous recevoir dans cette émission est toujours un honneur et un plaisir, vous le savez Thibaut. Je rappelle que le premier concert de Toulouse Guitare millésime 2021-2022 a lieu à la chapelle des Carmélites dimanche 10 octobre à 16h. C'est le guitariste argentin Roberto Ossel qui va le donner et vous pouvez d'ores et déjà acheter et réserver vos places sur le site www.toulouseguitare.fr où vous trouverez aussi toute la programmation de la saison. La chapelle des Carmélites est déjà à l'honneur ce dimanche 12 septembre à 16h puisqu'elle accueille la comédienne Marie-Christine Barrault et la violoncelliste Virginie Constant à l'occasion du dernier rendez-vous de la saison de musique en dialogue aux Carmélites, un concert lecture sur le thème de la forêt et intitulé L'Éden pour Horizon. Renseignements, réservations et achats des places en ligne sur le site www.musiqueendialogue.org. Et enfin, concernant la suite de Piano Jacobin, dont les concerts se poursuivent jusqu'au 26 septembre, je vous invite à consulter le site du festival www.pianojacobin.com. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine en musique.